Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain. Le sportif. Il
y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain. Le sportif. Terrain. Le. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à l'émission Le terrain sportif tous les lundis 10h30 midi sur les ondes de CSM le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et en rediffusion les lundis soirs 20h-21h30 sur les ondes de CFAQ le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke en Estrie. Mon nom est Wissem Benstein, ça fait plaisir de vous présenter cette édition aujourd'hui du 24 mars 2025 avec beaucoup de contenu. On va rien vous cacher tout de suite. En deuxième partie d'émission, on parle avec le Big Boss, le grand patron de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Donc, une très grande entrevue que j'ai pu réaliser avec lui là, il y a quelques semaines de cela. Donc, on va lui parler environ pour une trentaine de minutes. On le remercie d'ailleurs pour son temps. Également, on va parler avec moi-même, puisqu'on va y aller avec beaucoup d'actualités sportives. Là, on en a plein. On va parler CF Montréal MLS. On va débuter par ça d'ailleurs. On va vous donner également les séries éliminatoires qui débutent du côté de la LHJMQ, puisqu'on est en mode printemps, on est en mode séries éliminatoires dans la Ligue nationale dans quelques semaines. Puis on va laisser les grands médias en parler. Mais nous ici, à CSM et CFAQ, on donne la parole aux championnats, aux compétitions un peu moins connues. Donc on va faire un petit topo de ce qui s'en vient dans la LHJMQ. Également, on va parler des meilleurs pointeurs de la Ligue et les statistiques là, au courant de l'année 2024-2025 de la saison régulière. Également, eh bien, on va parler de sport universitaire puisqu'il y avait des finales, là, notamment de hockey masculin et féminin pour les champions et championnes canadiens. Du côté du sport universitaire. Donc, ça va être très intéressant de parler ça. Également, il y avait du volleyball masculin. Volleyball masculin, il y avait les championnats nationaux qui se passaient du côté de Brandon. Hockey féminin, c'était à Waterloo. Hockey masculin universitaire, c'était du côté de Ottawa. Puis il y avait le basketball féminin et masculin, ça c'était du côté de la Colombie-Britannique. Et volleyball féminin, c'était du côté du Manitoba. Donc voilà, c'est pas mal ça là, en ce qui a trait à cette émission du 24 mars 2025. Donc, les élections fédérales sont déclenchées, by the way, si vous ne le saviez pas. On va voir si ce sera dans le prochain mois, là, du côté du mois d'avril. On va avoir un nouveau, peut-être le même premier ministre avec Mark Carney et Pierre Poilievre qui, lui, se bat pour essayer de prendre la place de l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ou de prendre la place du nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney. Donc, juste pour vous dire que, bien oui, il y a des élections qui ont été déclenchées, puis ça se passe bientôt. Donc, bon, si vous voulez être informé, il y a d'autres émissions ici du côté de CSM et de CFAQ qui parlent politique ici. On parle sport, et puis on parle sport maintenant, avec, pour commencer, le CF Montréal qui était du côté de Nashville au Tennessee. Et encore une fois, pour le CF Montréal, ça s'est pas bien passé. Et en fait, le match a été pas très bon du côté du CF Montréal. Très peu d'occasions. En fait, en première mi-temps, première grosse occasion du match, là, en début de première mi-temps, le gardien de Nashville qui fait presque une erreur catastrophique qui fait en sorte que Prince Owusu peut marquer dans un but ouvert. Mais finalement, il touche le ballon à la toute fin puis est dégagé sur la ligne par un défenseur de Nashville. Et donc, ça aurait été le troisième but de la saison du CF Montréal, là. Mais malheureusement, ils n'ont pas marqué. Puis après ça, ça s'est terminé par une défaite, une autre, de 3-0, mesdames et messieurs. Tous des buts du côté de la deuxième du mi-temps, du côté de Nashville, avec Muir à la 56, Bauer à la 62e minute et Perez à la 67e minute. Pardon, j'en perds mon français. Et là, quand on regarde le classement, eh bien, avec parmi toutes les équipes qui ont joué, toutes les équipes de la Ligue ont joué 4 ou 5 matchs, la très très grande majorité ont joué 5 matchs comme le CF Montréal. Le CF Montréal, là, eh bien, est bon dernier de toute la Ligue, avec en 5 matchs, aucune victoire, un match nul, 4 défaites, 2 buts marqués, 9 buts encaissés. Et ce qui est encore pire pour le CF Montréal, c'est que les 2 buts marqués ont été marqués dans le premier match de la saison du côté d'Atlanta. Du côté d'Atlanta. Atlanta, d'ailleurs, qui, depuis le début de la saison, là, bien, c'est une victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites, donc c'est pas très bon. Et puis, ils ont marqué 2 buts contre eux lors du premier match de la saison. Est-ce qu'ils méritaient mieux? Probablement. Est-ce qu'ils méritaient mieux du côté de Minnesota? Peut-être. Mais le début de la saison, ça va comme suit, là. 3-2 défaites contre Atlanta, premier match. Deuxième match, défaite de 1-0 au Minnesota. Troisième match, défaite de 2-0 à Vancouver. D'ailleurs, Vancouver qui avait joué en milieu de semaine cette semaine-là en Ligue des champions de la CONCACAF. Quatrième match du côté DC United, 0-0. Et cinquième match du côté de Nashville, défaite de 3-0. Et quand on regarde les adversaires là, du CF Montréal, Nashville, oui, c'est une bonne équipe parce que c'est leur troisième victoire. Ils sont cinquième au classement de la Ligue. Mais on a joué contre Atlanta, qui est quand même 24e sur 30. DC United, qui est quand même 22e sur 30. Puis Minnesota, c'est 13e sur 30. Donc, on n'a pas joué contre beaucoup d'équipes qui font partie du top 10. Là. On a joué contre Vancouver, oui, qui font partie du top 10, deuxième dans la Ligue. Et Nashville, qui font partie du top 10. Le reste, on a joué contre deux équipes là, qui sont pas très loin de nous au classement. Et puis, on a joué contre DC United qui, eux également, ont accordé 9 buts. Donc, ils font partie des pires défenses de la Ligue et on n'a pas été en mesure de marquer contre DC United. Et donc, ça, c'est un problème, mesdames et messieurs. Je l'ai dit en début de saison, j'ai dit le CF Montréal, on est allé chercher des joueurs intéressants. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces joueurs-là sont blessés et sont arrivés blessés. Et surtout, parmi les joueurs qui sont arrivés à l'heure actuelle dans l'effectif du CF Montréal, quand on le regarde, quand on regarde les noms qu'on a, Vrioni, Opoku, Prince Owosu, Ibrahim Sunusi, Vilsain, Duke, Graham Roach, il n'y a pas beaucoup de joueurs là-dedans, mesdames et messieurs, qui ont connu des grandes carrières en tant que buteurs, en termes de statistiques, dans des ligues, disons, des premières divisions ou même des deuxièmes divisions, là. Et c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant parce que l'année dernière, on a perdu le meilleur buteur du CF Montréal, puis un des meilleurs joueurs de la Ligue, Joseph Martinez, qui est parti, qui joue maintenant du côté de San Jose. D'ailleurs, je crois qu'il est absent pour les matchs de qualification de Coupe du Monde, lui qui joue avec l'équipe nationale du Venezuela. Donc, on l'a perdu, puis on l'a remplacé par, techniquement, Vrioni, qui est un joueur désigné. Mais Vrioni, il est blessé, puis Vrioni, c'est un joueur qui, oui, peut marquer des buts, mais c'est pas non plus un joueur qui a eu des grandes carrières de buteur dans sa carrière. Là. Une grande carrière de buteur dans sa carrière. Avec le New England Revolution, il a marqué 16 buts en 67 matchs. C'est pas dégueulasse, mais c'est à peu près là, un but. C'est moins qu'un but à tous les 4 matchs. Il a marqué 19 buts en 28 matchs avec WSG Tirol. Et moi qui connais beaucoup mon soccer, je ne connaissais pas ce club. Et c'est un club qui joue en première division autrichienne, mais ce n'est pas du tout un des meilleurs clubs là, de la première division autrichienne, bien entendu. Et donc, qui va marquer les buts? Parce que Sunusi Ibrahim, lui, il en marque quelques-uns, il n'a pas beaucoup sa chance, il joue surtout sur le banc, il rentre en fin de match. Il en a déjà marqué quelques-uns pour l'Impact, mais à l'heure actuelle, côté CF Montréal, on n'est pas capable de marquer des buts. Puis si on n'est pas capable de marquer des buts, on ne va pas gagner beaucoup de matchs. Et là, on est déjà en retard. 2 buts seulement ont été marqués cette saison. Prince Osei Owosu en a un et Saliba en a un deuxième. 2 marqueurs. D'ailleurs, Saliba qui a eu une bonne frappe lors du match là, contre Nashville, malheureusement, le gardien a fait l'arrêt. Il y a déjà quelques bonnes occasions. Saliba, il connaît quand même un début de saison pas trop mal. Mais à part ça, là, Owosu, c'est un but, une passe également. Donc, c'est pas si pire pour Owosu. En 5 matchs, un but, une passe. Quand même, en termes de statistiques, c'est pas dégueulasse. Sauf que ça va en prendre plus, là. Ça va en prendre plus, parce qu'à Nashville, on a été inexistant, on n'a pas été présent. Et on va vous donner le 11 titulaire qu'il y avait pour ce match-là, du CF Montréal. C'était un coup d'envoi samedi soir à 20h30, hein, puisque Nashville, je crois qu'il y a une heure de moins que nous. Donc, Owosu, Clark en attaque. Le piston à gauche, Dante Sirley, à droite, Guboglo. Et les trois du milieu, donc Lotori, Saliba, le capitaine hein, pour le joueur formé au club, et Bryce Duke. Et les trois défenseurs, Alvarez, Petrasso et Campbell, gardien de but, Sirois. Donc voilà pour le 11 de départ du CF Montréal. Ceux qui sont rentrés en cours de match, Samuel Piette là, qui revient d'une blessure, donc est rentré à la 73e minute. Ibrahim Sounoussi à la 63e minute est rentré. Brendan Craig et Opoku également sont rentrés. Yankov n'a pas joué, Tom Pierce non plus, Bougage non plus et Marshall Routui également sur le banc. Donc pour ce match-là qui était absent, eh bien Jalen Neal, défenseur de Los Angeles Galaxy, absent. Herbert absent également, ça c'est une autre crue. Sinchuk absent, Vilsain absent, Vrioni absent et Waterman absent. Donc beaucoup de blessures déjà et de joueurs absents comme Waterman qui sont partis représenter l'équipe nationale. Prochain match pour le CF Montréal, eh bien on se déplace encore une fois pour une avant-dernière fois avant le retour à domicile en avril. On va du côté de Chicago pour y affronter le Chicago Fire. Et Chicago Fire, à l'heure actuelle, en 5 matchs, eh bien, c'est 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. C'est 12 buts marqués et c'est 9 buts encaissés. Donc, c'est une équipe le fun à voir, Chicago, là, parce qu'ils marquent et ils encaissent. Mais 12 buts, là, c'est quand même c'est beaucoup de buts marqués en 5 matchs. Là, c'est plus que 2 buts par match. Et le deuxième meilleur buteur de toute la ligue, c'est Hugo Kuipers, l'attaquant des Chicago Fire. Il a déjà 5 buts marqués à son actif. Donc, il va être à surveiller. Et pour être honnête avec vous, là, je ferai un petit pari que dans ce match-là, le CF Montréal va concéder quelques buts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec 9 buts encaissés en 5 matchs, là, le Chicago Fire est très tolérant et très ouvert d'esprit, puisque c'est le même nombre de buts concédés que le CF Montréal, qui est dernier dans toute la ligue avec, justement, 9 buts concédés. Et après ça, ben après ce match-là, on va aller du côté de Columbus pour y affronter Wilfrid Nancy et ancien compagnon du CF Montréal comme Rudy Camacho et Lassie Lapalainen. Et après ça, eh bien, 2 matchs en avril de MLS back-à-back, le 12 avril contre Charlotte, le 19 avril contre Orlando. Et après ça, eh bien, juste comme ça, c'est le championnat canadien le 30 avril à Toronto contre le Toronto FC. Toronto FC aussi qui va très mal, on va en parler dans les prochaines secondes. Puis d'ailleurs, Toronto qui sont l'autre, la deuxième pire équipe de toute la ligue. En fait, ils ont la même fiche que nous, comme trois autres équipes en bas de nous au classement. Ils ont un match nul, 4 défaites, 6 buts marqués, 12 buts encaissés. Et avant ça, c'est Kansas City. Et Kansas City qui a un match nul, 4 défaites, 5 buts marqués, 10 buts encaissés. Donc voilà. Et nous, notre différentiel, mesdames et messieurs, il est de moins 7, c'est le total de notre différentiel entre les buts marqués et les buts encaissés. Et ça, c'est le pire des 30 équipes de la Major League Soccer, mesdames et messieurs. Ni plus ni moins. C'est tout simplement le pire différentiel de toute la ligue. On va y aller en rafale maintenant avec ce qui s'est passé dans cette merveilleuse ligue qui est la MLS. Donc, ça a commencé là, tout comme tous les fins de semaine, le samedi, puisqu'il n'y a pas de match en MLS le vendredi en général. Cincinnati-Atlanta 2-2, Minnesota-LA Galaxy 2-2, Charlotte 4, San Jose 1, avec Joseph Martinez qui n'était pas là. Philadelphie bat Saint-Louis 1-0, Orlando bat DC United 4 buts à 1. Red Bulls contre Toronto 2-1 pour les Red Bulls. Kerr a marqué et Emil Forsberg, le Suédois, a marqué 2 buts pour les Red Bulls. Columbus contre New York City 0-0, Nashville-Montréal 3-0. Los Angeles bat Kansas City 2-0 à l'extérieur. Portland s'impose à Colorado 3-0 avec, si je ne m'abuse, là, l'ancien gardien de but du CF Montréal, Pantémis, qui joue maintenant avec Portland Timbers et puis il était titulaire. D'ailleurs, il a été souvent titulaire lors des derniers matchs. C'est lui le gardien partant cette saison avec les Portland Timbers. Salt Lake perd à domicile 1-0 contre Dallas. Chicago s'impose 3-1 du côté de Vancouver. Seattle-Houston 0-0 et Austin contre San Diego FC 2-1 pour Austin. Fait à noter là, pour nos amis de San Diego FC, Irving Lozano, s'est blessé dans le premier match de la saison et il n'est pas là. C'est un joueur qui est beaucoup blessé. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, le Mexicain, qui jouait du côté de Naples avant. Donc, une carrière, là, malheureusement, en dents de scie, puisqu'il est très souvent blessé. Et puis ça va faire du mal à San Diego s'il ne revient pas rapidement. Donc, voilà pour les résultats le week-end dernier dans le circuit de la MLS. Maintenant, on fait une petite pause musicale, puis on revient après ceci avec les meilleurs joueurs de la Ligue et surtout le classement complet. Vous écoutez Le Terrain Sportif. Bougez pas.
Seconde nature, les épaules solides.
vacances, mais à quand les vacances? Les jours qui passent dans la peau. Attendre que rien se passe comme prévu. Encore étonné que ça nous retombe dessus.
Soleil, soleil.
venez d'entendre trois chansons back-à-back, des chansons francophones bien de chez nous, comme à l'habitude ici au terrain sportif. Ariane Roy avec âme sœur, Soleil Soleil également, Jeanne Côté à quand les vacances, mesdames et messieurs. Donc on va maintenant y aller avec la LHJMQ dans quelques instants. On va juste vous donner le classement final de la MLS là, après 5 matchs pour la plupart des équipes. Premier, on va y aller avec le classement dans l'Est là, puisque c'est surtout ce qui nous intéresse. Donc dans l'Est, Philadelphie premier, 12 points. Deuxième, Charlotte. Troisième, Miami. Quatrième, Nashville. Cinquième, Chicago. Sixième, Columbus. Septième, New York Red Bulls. Huitième, New York City. Neuvième, Orlando. Dixième, Cincinnati. Onzième, DC United. Douzième, Atlanta. Treizième, Nouvelle-Angleterre. Quatorzième, Toronto. Et quinzième, le CF Montréal avec le pire différentiel de toute la ligue et le deuxième plus bas total de buts marqués là, avec 2 buts marqués en 5 matchs. Nouvelle-Angleterre, quant à eux, ils ont marqué seulement 1 but, mais en 4 matchs. Donc voilà pour la MLS et les meilleurs buteurs de la ligue. On l'a mentionné tantôt, là, Hugo Kuipers de Chicago avec 5 buts, mais le meilleur buteur de la ligue, c'est Ty Baribeau de Philadelphie avec 6 buts. Et quant aux meilleurs passeurs de la ligue, eh bien, il y en a 4. Il y a Pep Biel avec Charlotte. Également, Kai Wagner de Philadelphie avec 4. Jaden Nelson de Vancouver avec 4 passes décisives. Et Luis Suarez, monsieur Uruguay avec l'Inter Miami, lui, il a 4 passes également. Maintenant, on va y aller avec un tout petit peu de LHJMQ avant de parler au Big Boss Mario Cecchini pour vous parler des résultats de la saison régulière puisque les playoffs ont commencé. Il y a 18 équipes dans la Ligue. Il y a seulement 2 équipes qui ne participent pas aux séries. Là. Donc, pour ne pas participer aux séries, faut vraiment là, être dans les bas-fonds de la Ligue junior-majeure, junior-maritime du Québec. Et cette année, eh bien, la pire équipe de la Ligue, c'est les Tigres de Victoriaville. 17 victoires, 43 défaites en 64 matchs. Là. Donc, ils sont derniers au classement général. Et sinon, à part eux, ben, c'est les Sea Dogs de Saint John dans les Maritimes avec 21 victoires, 43 défaite. Donc au classement général, là, c'est 42 points et 38 points respectivement. Et la meilleure équipe de la Ligue, ben, c'était de loin là, par plus de 12 points sur quelconque rival. C'était les Wildcats de Moncton avec 108 points au total. Maintenant, pour les séries, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça commence très bientôt. Ça commence vendredi ou jeudi, dépendamment là, de quel match ça concerne. Tout d'abord, dans la conférence de l'Ouest, eh bien, c'est Halifax qui va jouer contre Drummondville. Bonne chance, mesdames et messieurs, pour les déplacements. Ça commence le 28 mars. Ça, c'est vendredi qui s'en vient. Également, les Huskies de Rouyn-Noranda contre les Olympiques de Gatineau, ça commence également le 28 mars. Shawinigan contre Val-d'Or, ça commence le 28 mars du côté de Shawinigan. Et Blainville, l'armada de Blainville-Boisbriand qui n'aura pas à faire un déplacement trop long puisqu'ils vont jouer contre le Phoenix de Sherbrooke. Ça commence ça le 27 mars à 19h du côté de la rive nord de Montréal à Blainville-Boisbriand. Allez voir ça, là, ça va être une bonne ambiance. Et dans la conférence de l'Ouest, c'est bien Québec qui va se déplacer du côté de Moncton, ça commence le 28 mars à 19h. Charlottetown contre l'Océanic de Rimouski à Rimouski, ça commence le 28 mars. Également, le Titan de l'Acadie Bathurst qui se déplace du côté de Chicoutimi le 28 mars. Et les Eagles du Cap-Breton qui jouent contre le Drakkar de Baie-Comeau, ça commence vendredi le 28 mars également. À noter que ce sont des 4 de 7, donc beaucoup de hockey là, qui reste à jouer pour savoir qui sera champion dans cette merveilleuse ligue qui est d'ailleurs très sous-cotée, si vous me demandez mon avis. Maintenant, pour les stats, les meilleurs joueurs en termes de statistiques, Jonathan Fauchon, le meilleur pointeur de la ligue avec 103 points, Justin Carbonneau, 89, Philippe Veilleux, 87. Les meilleurs buteurs de la ligue, Sam Olivier, le seul qui a atteint le plateau des 50 buts des Voltigeurs de Drummondville. Donc 50 buts pour lui, Jonathan Fauchon de Rimouski avec 46, tout comme Justin Carbonneau. Meilleur passeur de la ligue, Luke Woodworth avec 66 passes. Également, ben, le nombre le plus élevé de buts en avantage numérique, Vincent Desjardins avec quand même 38 réalisations là, en avantage numérique. En désavantage numérique, le meilleur buteur, ça a été Mathieu Saint-Onge. le plus grand nombre de blanchissages dans cette ligue-là. Riley Mercer de Drummondville avec 5, tout comme Samuel Meloche des Huskies de Rouyn-Noranda. Plus grand nombre de victoires pour un gardien de but, Lucas Beckman avec le Drakkar de Bécomo. Et le meilleur pourcentage d'arrêt de but alloué, pardon, c'est William Lasselle de l'Océanique de Rimouski avec un très bas 2.38. Donc voilà ce qui fait un peu le petit tour là, de la LHGMQ. On va en parler dans les prochaines semaines, peut-être des entrevues, puis sûrement quelques accréditations à gauche et à droite pour aller voir ce qui se passe au niveau hockey junior à travers la belle province de Québec. Maintenant, on y va avec notre entrevue avec M. Mario Cecchini, président de la Ligue hockey junior maritime du Québec. Bonne écoute. Donc, nous sommes avec Mario Cecchini, le boss, le président de la LHGMQ, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Comment ça va aujourd'hui, M. Cecchini?
Très bien, vous-même.
Très bien, merci. On prononce Cecchini, c'est exact?
Cecchini, vous l'avez bien dit, c'est bien ça.
Parfait, exactement. Donc, je commence tout le temps avec mes invités en leur demandant les mêmes trois questions. Donc, votre nom, on l'a déjà dit. Vous avez grandi où et quelle a été votre école secondaire lorsque vous étiez jeune?
Alors, je suis né à Shawinigan. J'ai quitté Shawinigan à 3 ans. Et puis, j'ai grandi principalement à Candiac jusqu'à 9 ans et Saint-Lambert jusqu'à 20 ans. Donc, jusqu'à temps que je quitte. Alors, c'est sur la rive sud de Montréal, dépendamment.
Oui.
Ceux qui ne savent pas, puis Shawinigan, c'est à Mauricie, évidemment. Puis j'ai fréquenté le Collège Charlemagne au secondaire.
OK, à Longueuil.
Longueuil et Sainte-Catherine. Il y avait les deux campus. Moi, j'ai été à Longueuil 3 ans parce que moi, je suis assez vieux. Alors, dans le temps, on avait les cours enrichis avec latin. Il y avait du latin. J'ai probablement un des derniers qui a pris un cours de latin.
OK.
Dans les années 70. Et puis, on était resté à Longueuil 3 ans pour campus de Sainte-Catherine pour secondaire 4 et 5 dans mon cas.
OK, excellent. Puis Cecchini, est-ce que c'est d'origine italienne?
Italienne, c'est en plein ça.
OK, est-ce que vous avez jamais habité là-bas? C'est plus des origines des grands-parents, parents?
C'est mon père, en fait, mais ma mère est purement québécoise, elle vient de Rosemont. Donc,
okay.
D'où sens que vous entendez.
OK, excellent. Et puis, dans votre jeunesse, j'imagine, bon, vous avez été président des Alouettes, là, le président de la LHGMQ. Comment vous avez vécu une jeunesse reliée dans le monde du sport? C'était relié à quoi exactement?
Ben moi, j'ai fait du sport à tous les niveaux et j'ai joué football, baseball. Dans mon temps, c'était vraiment football, baseball, hockey. Alors, j'ai joué au hockey jusqu'à midget 2 lettres qu'on disait dans ces années-là. Parce que je suis allé étudier à Jonquière. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey à 17 ans. Mais j'ai joué au baseball jusqu'à joueur de 20 ans. Et
okay.
Puis, j'ai joué au football, au cégep de Jonquière. J'ai joué au football à Brossard aussi, dans le civil, une saison, puis une saison au collégial. Alors, je faisais tous les sports. Je jouais au tennis aussi, évidemment. Alors, tout ce qui était sportif de l'époque, à l'époque, c'était autre chose. Hein? Il n'y avait pas de... Les distractions n'étaient pas à l'intérieur, on était à l'extérieur tout le temps, puis c'était tout axé autour du sport en ce qui me concerne. Tous mes amis, on se réunissait pour savoir, on jouait toujours des games de football, après ça c'était le baseball, c'était le hockey, on jouait toujours à un sport.
Oui, c'est ça, il y avait moins d'écrans à l'époque, même s'il y en avait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Ah bon, oui, définitivement.
Oui, et vous êtes passé par les Alouettes. Bon, vous avez été président des Alouettes. C'est pas la raison pour laquelle on vous invite aujourd'hui, mais quand même, vous avez fait augmenter la moyenne de 4 500 spectateurs environ là, en une année lors de votre passage. Premièrement, comment est-ce que vous avez fait pour faire ça? Puis deuxièmement, quels souvenirs gardez-vous de votre passage chez les Alouettes?
Les Alouettes, ça a été, bien d'abord, pour mettre vos auditeurs en contexte, il faut rappeler que nous, on arrive là en janvier 2020. Avec un nouveau propriétaire, alors que l'équipe n'avait pas de propriétaire en 2019, à la fin d'une décennie qui avait été assez compliquée. Fait que le premier sur le terrain. Donc, le premier geste à faire, c'est d'avoir les bonnes personnes de football. Alors, on travaille avec Danny Machocha, que sa réputation et son génie de football, c'est plus à prouver. Première étape. Deuxième étape, on a effectivement s'est rapproché beaucoup des gens, beaucoup de la communauté. Beaucoup d'accessibilité, je dirais, de rendre nous, les dirigeants, disponibles. et les joueurs disponibles. Malheureusement, on est arrivé en février et COVID frappe au mois de mars. Fait que la première année, on n'a pas joué. Alors, il y a aussi une espèce d'engouement qui s'est créé par l'attente, parce que les fans ont manqué un an. Mais durant cette année-là, avec les abonnés de billets de saison, on faisait des Zooms, on pouvait poser des questions directement. On a trouvé toutes les façons de démontrer qu'on voulait rester proche de nos gens. Puis on a fait beaucoup d'événements de proximité. C'est vraiment aller chercher les gens un par un. On faisait des 5 à 7 avec des joueurs présents pour les abonnés de saison. Les gens pouvaient venir. Alors, toutes des petites choses qui, cumulés ensemble, ont fait que les gens ont senti que l'équipe se rapprochait, plus quand même des bonnes performances sur le terrain. Évidemment, quand vous demandez souvenirs, ben, je pense que l'histoire est connue. Si vous avez fouillé un peu, vous savez qu'on avait un propriétaire qui se prêtait pas, qui était un propriétaire problématique. Ça, c'est un propriétaire qui n'avait pas tout saisi les enjeux que ça prend. Il y a eu chicane de famille aussi en haut dans l'actionnariat, ce qui fait qu'à un moment donné, on a suggéré à la Ligue de reprendre l'équipe encore une fois. Ce qu'ils ont fait, puis moi, je savais qu'évidemment, moi, j'étais, j'avais, 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 on n'était pas dans des, on était en conflit, si on veut, en termes de ce qu'il fallait faire, parce que dans le fond, il n'y avait plus de participation de la famille. C'était plus, comment est-ce qu'on fait pour rien faire? Ah, j'ai dit, c'est pas comme ça là, que tu gères une concession de sport. Et je suis parti au mois de décembre, puis l'équipe a racheté, la Ligue a racheté le club au mois de février pour la vendre à M. Pelado au mois de mars.
OK, c'est ça. Puis c'est là que vous êtes parti. Vous êtes parti dans les mêmes eaux, hein?
Mais moi, mon contrat finissait au mois de décembre. Alors, comme j'avais dit au propriétaire que j'en étais plus du tout sur la même longueur d'onde, puis ça pouvait plus se poursuivre, bien, je savais que je partais à la fin de l'année. Et le timing a fait que la Ligue a appelé au même moment. Alors, quand la Ligue m'a rappelé en février, je suis retourné comme président par intérim pour leur donner un coup de main pour un mois jusqu'à temps que M. Pelado arrive. Mais j'avais déjà entamé des conversations avec la Ligue. Et ça s'est réglé dans ce mois de février-là. Alors, la Ligue m'a laissé finir mon statut intérimaire avec la CFL jusqu'au 6 av avec les Alouettes jusqu'au 6 avril. J'ai pris un mois de vacances et le 8 mai, j'ai commencé avec la LHJMQ.
OK, tout à
Il
fait.
quand on dit tout ça.
Oui. Et vous arrivez dans la LHMQ, tout d'abord, bon, il y a le président, l'ancien président Gilles Courteau, qui a démissionné, si je ne m'abuse. Tout ça se passait à l'époque où est-ce qu'il y avait des scandales par rapport aux initiations qui s'étaient passées dans le passé dans la Ligue. Et vous, malgré ça, vous avez décidé de relever le défi. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir le nouveau patron de la LHJMQ?
Ben, c'est exactement ce que vous dites, mon historique business, parce qu'avant les Alouettes, j'ai fait une carrière en médias pendant 36 ans. Et ce qu'on s'est spécialisé, c'était justement de prendre des situations difficiles, en certains cas, des situations troubles ou des stations qui ne marchent pas, et de faire, comme on dit en bon québécois, des turnarounds. Donc, prendre la situation et la rendre positive. Donc, c'est un peu ma marque de commerce avec l'équipe avec qui j'étais. Fait que c'est ça qui m'a motivé. Je veux dire, à partir de ce moment-là, j'ai raconté cette anecdote souvent, mais la première personne qui m'a appelé, c'est un ami qui m'a appelé le 23 décembre, puis qui m'a dit, pense à la LHJMQ. Gilles venait d'annoncer, je pense, le 15 ou le 16 qu'il quittait. Puis moi, j'ai quitté les Alouettes le 21. Ça a été annoncé le 23. Le 23 l'après-midi, cet ami-là m'appelle, il dit, pense à la LHJMQ. Et en raccrochant, c'était un des Noëls où moi j'étais. On n'avait pas d'électricité, là. Celui qui n'a pas eu d'électricité pendant 3 jours. Alors ma fille, elle m'écoutait au téléphone, puis elle dit, tu as toujours voulu travailler avec les jeunes. Tu sais, j'ai travaillé avec la DPJ, j'ai fait beaucoup de choses pour les plus jeunes, l'hôpital à Sainte-Justine, tout ça, des radiothons. Et puis ben là, il y avait une chance de changer, peut-être arriver avec des éléments de culture qui vont être différents. Il y avait le règlement des bagarres qui était très, très, très visible à ce moment-là. C'était discuté. Moi, j'étais très, très en ligne avec ça. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, ces situations-là, curieusement, m'attirent parce que ça prend quelqu'un qu'il faut qu'il prenne le taureau par les cornes. Puis c'est le fun parce qu'à mon âge, j'ai une certaine liberté. On n'est pas, je suis pas à bâtir une carrière. Je suis à l'aube de ma carrière. Alors, il reste peut-être 5-6 ans. Tant que je suis en forme, tout ça. Alors, je trouvais que c'était très pertinent de mettre ce que je peux amener au service des gens.
Parfait. Ben écoutez, c'est à votre honneur. Puis depuis que vous êtes là, j'imagine que ça s'est amélioré un peu. On va en parler tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, je veux savoir, bon, un président d'une ligue comme la LHJMQ, ça fait quoi?
Qu'est-ce que ça fait le jour?
Qu'est-ce que ça fait?
Alors, ça, ben, d'abord, il y a plusieurs volets. Il y a le volet hockey. On a évidemment des gens, des vice-présidents, des directeurs généraux qui s'occupent, par exemple, des règlements, puis de la réglementation administrative aussi, soit les échanges, l'école. Nous, il ne faut jamais oublier que c'est des athlètes étudiants. Alors, on a des conseillers scolaires aussi. Fait que oui, un président, de façon générale, ça veille à la bonne marche, mais ça veille à respecter le plan stratégique aussi. Tu sais, nous, on est, comment dire, ma job à moi, c'est d'être toujours 3 ans en avance parce qu'il y a des gens qui c'est 18 mois, puis il y a d'autres gens que c'est le quotidien. Chaque job est important, puis ils vont ensemble. Alors moi, c'est s'assurer, exemple, la croissance de cette ligue-là va passer par où? Est-ce que ça passe par de l'expansion? Est-ce que ça passe par une réduction? Je veux dire, tout est sur la terre quand tu regardes le futur. Alors, faut-tu te permettre de penser de façon libre? Alors, c'est ça que ça fait. Ça rencontre, ça réfléchit, ça bâtit des ponts, ça bâtit des alliances avec les groupes qui peuvent nous être utiles. Évidemment, il y a tout l'aspect, comment dire, il y a tout l'aspect business, il y a tout l'aspect développement des joueurs aussi. Par exemple, une des choses qu'on a fait dans le changement, c'est d'avoir un match dédié à ce qu'on appelle nos espoirs qui sont vus par la Ligue nationale de hockey pour être repêchés. Donc, les 40 meilleurs de notre ligue vont s'affronter dans un match au mois d'octobre. Et là, tous les dépisteurs de la LNH sont présents. Donc, ça donne de la visibilité au talent de notre ligue. On dit souvent que notre ligue, des fois, il y a des mauvaises langues qui disent, tu sais, il n'y a pas assez de Québécois. Là, je parle de Québécois, même si notre ligue est dans 5 provinces, mais il n'y a pas assez de Québécois dans telle équipe. Ben, mon rôle, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire dans ce contexte-là? Je ne peux pas les rendre meilleurs, moi. Ça, ce n'est pas ma job. Mais je peux m'assurer qu'ils sont bien vus et bien représentés. Et ça, on fait des pas, par exemple, en ce sens-là, pour s'assurer que le jeune a vraiment le maximum de chances de réussir son rêve. Parce que tous ceux qui rentrent, c'est jouer dans la Ligue nationale pour le moment, qui veulent, puis ils croient à ce moment-là, à 16-17 ans, puis il faut que tu y crois, parce qu'on ne sait jamais. Il y en a des beaux exemples de joueurs qui n'ont pas été repêchés, marché tout. Qui sont allés gagner le Conn Smythe.
Oui.
Alors, tu sais, ça, c'est un joueur, pour l'anecdote, qui a été repêché dans notre ligue en 12e ronde. Fait qu'il n'a jamais été identifié comme un top. Il n'a pas été
Right.
repêché dans la Ligue nationale, il s'en va gagner le Conn Smythe avec Vegas. Ça donne une idée un peu qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours croire. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, il faut que je prenne ça comme président et dire qu'est-ce que je peux faire pour combler ça. Fait qu'on dirige, dans ce cas-là, c'est un événement. À d'autres moments, ça va être s'assurer que Hockey Canada a un dépisteur en permanence pour notre ligue, pour s'assurer que nos joueurs sont bien vus et bien évalués pour les équipes nationales en bas de 17 ans, en bas de 18 ans, puis en bas de 20 ans, évidemment. Alors, c'est un peu ça, la bonne marche. S'assurer que le contact, la communication avec les propriétaires et entre les propriétaires d'équipe est toujours saine, est toujours vivante. Puis quand il y a des situations où il y a des vues d'opposés, ben faire le travail, s'assurer qu'on a le data, les données pour bien analyser ça, puis arriver à une conclusion qui va le plus possible rallier le plus grande personne, le plus grand nombre de personnes.
OK, excellent. Puis est-ce que par exemple vous avez visité toutes les arénas de la ligue jusqu'à date ou vous n'avez pas eu le temps encore de toutes les faire?
Non, j'ai même fait 2 fois. J'étais allé partout à chaque année
Wow.
pour moi. C'est important d'aller partout, passer une journée avec les gens là-bas, passer une journée avec la direction, entendre les vrais problèmes, rencontrer les maires des villes qui sont souvent propriétaires de nos arénas, rencontrer les gens intéressés, rencontrer les familles de pension pour leur dire merci. S'il n'y a pas de famille de pension, il n'y a pas de ligue. Puis des fois, parler avec les joueurs même. M'asseoir, il y a des équipes qui me demandent de prendre 4-5 minutes avec les joueurs. Donc, on échange sur ça, je leur parle un peu. Alors, absolument, j'ai vu toutes les arènes.
Toutes les arénas, OK. Et pour revenir à ce que vous avez dit il y a quelques instants, parler des nombres de Québécois dans la Ligue nationale. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais petit, Raymond Bourque, Brodeur, Luongo, Lemieux, bon, il y en avait pas mal, puis ils dominaient toute la Ligue. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est quoi la raison principale qui explique cela, selon vous?
Ah, ben ça, c'est une question qui prendrait beaucoup de temps à répondre. Probablement, vous la demanderiez à 10 journalistes, 10 DG, 10 connaisseurs, vous auriez 10 réponses. D'abord, je pense qu'il y a une notion de mondialisation. Mais il faut reconnaître que dans les années, j'ai devant moi les gilets de Raymond Bourque, Brodeur et Lafleur. Alors, pour vous dire ça, c'est des époques où le hockey européen n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui et le hockey américain n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui. C'est une époque où vous faites référence, probablement 80% des joueurs étaient canadiens. Donc, une bonne portion, évidemment, était québécois. Là, il y a une mondialisation, donc forcément. Parce que je dis ça en voulant dire, les parts de marché des joueurs canadiens ont peut-être passé de 80 depuis Raymond Bourque à aujourd'hui, je pense, 40%. Donc, le constat que vous faites pour les Québécois, il est vrai pour les Ontariens, il est vrai pour les Albertains. Il est vrai pour tout le monde, parce que le Canada, sa représentativité a baissé beaucoup. Fait, pas parce qu'on est moins bon, parce qu'il y a une masse de joueurs. Le hockey est devenu mondial, puis on a ouvert les portes aux Européens et aux Russes. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est normal que ça s'est dilué pour nous. Ça, c'est la raison numéro un, qui est purement mathématique, qui n'a rien à voir avec le talent. Après ça, ben, on a eu, je pense, un côté, ce qui est malheureux, c'est qu'on a 13 années en ligne, je pense, de 2010 à 2023. Il faudrait vérifier, là, qu'est-ce que je vous dis. Je pense pas me tromper, mais vous me vérifierez. Il y a eu moins d'inscriptions à Hockey Québec. Fait qu'il y a eu l'essor du soccer, peut-être, de d'autres sports qui ont pris beaucoup de place. Fait que les jeunes ont plus de choix qu'il y avait avant. Moi, je me posais, moi, là, il n'y a jamais été question dans ma tête quand j'étais jeune. Que je sois un joueur de basketball. C'était les Expos, les Alouettes et c'était les Canadiens et les Nordiques. Fait que tu jouais au hockey, baseball, football. Il n'y a pas de jeune autour de moi qui disait je veux jouer dans la NBA. Aujourd'hui, il y en a plein. Tu sais? Alors, il n'y a pas de jeune qui disait moi je veux jouer au soccer professionnel. Aujourd'hui, il y en a plein. Alors, les jeunes ont plus de choix. Puis le fait qu'on ait eu moins d'inscriptions témoigne de ça. Parce que quand tu as moins d'inscriptions pendant 13 années consécutives, ben c'est sûr qu'il y a un peu de talent peut-être qu'on a perdu qui est allé ailleurs. Puis une autre raison peut-être, ben pour le moment, on n'y échappe pas beaucoup, mais c'est le coût. Jouer les sports que je vous nomme, basketball, soccer, ça coûte une paire de. J'allais me dire que les Nike peuvent être très chers, mais ça coûte juste ça. Hein? Ça coûte ça. Ça te prend une bonne paire de souliers. Le reste, ça prend des shorts, puis une camisole dans le cas du basketball, puis un t-shirt dans le cas du soccer. Au hockey, coûte plus cher. Il faut le reconnaître. Jouer au hockey, mais aujourd'hui, coûte beaucoup plus cher. Alors, que ça coupe aussi peut-être certaines entrées, possiblement. Alors, puis nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fondation de la LHJMQ, on a étiré notre mandat qui était d'abord scolaire, qui est aussi maintenant pour fournir de l'équipement aux familles qui sont défavorisées. Alors, il y a peut-être là, comme je dis, on pourrait poursuivre. Il y en a qui vont vous parler du développement des joueurs. Il y en a qui vont vous parler que comme il y a moins de joueurs dans la Ligue nationale, par conséquent, on a moins de modèles. Il y en a qui vont vous parler parce qu'on n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis 30 ans, il y a moins d'intérêt. Il y a mille raisons, mais je pense que dans ce que je vous dis, il y en a quand même, c'est quand même des éléments qui viennent jouer là-dedans, qui viennent
Oui, c'est
jouer.
ça. J'avais pensé à certaines des réponses que vous avez mentionnées. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je sais, vous êtes un homme très occupé. J'ai quelques petites questions en rafale, là, vraiment, avec des réponses courtes, si vous le pouvez, Monsieur Tchekini, président de la LHMQ. Tout d'abord, les équipes dans la LHMQ, ce sont des équipes qui appartiennent à des propriétaires privés ou il y en a qui appartiennent, par exemple, à des... je sais pas.
On a plusieurs structures. Il y a des équipes qui appartiennent à des villes. Il y a des équipes qui sont à but non lucratif et qui appartiennent et qu'on régit donc par un conseil d'administration. Puis il y en a qui appartiennent à des propriétaires actionnaires, effectivement.
OK,
On a trois
parfait.
structures principales.
Parfait, merci beaucoup. Bon, il va y avoir une équipe à St. John's à Terre-Neuve. Ce n'est pas la première fois qu'il y en a une. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner?
Ben, c'est sûr qu'on pense que ça va fonctionner parce qu'on le fait, mais je pense que pour que vous faites allusion à quand on était là en 2008 et 2010, puis principalement, ça a été reconnu depuis ce temps-là qu'on n'avait pas nécessairement les bons propriétaires et qu'on n'avait pas une bonne entente avec l'aréna,
OK.
qui est venu vraiment plomber les élans de cette concession-là, alors que là, on a ces deux éléments-là, on est convaincu qu'on a réuni du positif autour de ça.
OK, parfait. C'est quoi le challenge, en fait, d'avoir une équipe à Saint-Jean? C'est que c'est trop loin pour les autres équipes à visiter? C'est compliqué?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion. Alors, l'équipe qui est là-bas, quand on parle de bons propriétaires, c'est eux qui payent l'avion, de soit de Halifax à Moncton. Alors, je vous donne une typique, là, parce que quand les joueurs, ils vont là, quand les équipes, ils vont là, ils jouent toujours deux matchs. Parce qu'ils prennent l'avion entre Halifax et Terrebonne. Alors, c'est ça le challenge. C'est les coûts supplémentaires. Fait que ça te prend un propriétaire là-bas qui est prêt à absorber ces coûts-là, qui croit à son plan assez pour dire je vais attirer assez de spectateurs à un prix qui est raisonnable, parce que notre ligue, c'est très raisonnable.
Oui.
Et par conséquent, tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu puis t'assurer que les joueurs se développent, les jeunes se développent de belle façon.
OK, parfait. Et une petite dernière en terminant ou avant-dernière, qu'est-ce qui va bien depuis que vous êtes arrivé dans la LGMQ? Qu'est-ce que vous remarquez qui s'est amélioré selon vous, Monsieur Chicchini?
Ben, je vous répondrai par des indicateurs que nous, on regarde. D'abord, on a fait beaucoup de changements. On a éliminé les bagages jusqu'à un certain point. Il va toujours en avoir, mais le joueur est expulsé du match. On a réduit le nombre de matchs. On a augmenté les bourses de 20 %, les bourses universitaires. Alors, on a étiré le temps. Un jeune avait 2 ans après sa dernière année pour commencer ses cours universitaires. On l'a étiré à 3 ans. On a fait un club des vétérans, on a fait un deal avec la DPJ, on a fait le match des espoirs que je vous parle là. On a fait une session d'introduction à la Ligue avec toutes les recrues. Alors, une journée au complet dédiée au programme scolaire pour les aider, des anciens qui viennent leur parler. Et aussi, on parle de consentement sexuel. Alors, tout ça, c'est vraiment parce qu'ils deviennent des vedettes, ils deviennent des cibles. Alors ça, je pense, c'est des éléments dont on est très, très, très fiers. On a changé de nom. Alors, Ligue hockey junior maritime Québec. Alors, tout ça, c'est des éléments, je pense, que je félicite toujours le CA, les équipes qui ont embarqué dans ces changements-là. Puis la résultante d'un peu tout ça, peut-être, ben, c'est que l'année passée, les foules ont augmenté de 4 %. Cette année, les foules augmentent encore de 3,8 %. L'intérêt, le côté média, on voit des articles très fréquemment maintenant. On parle beaucoup de nous, un peu, on jamais assez de nous, on n'en parle pas à tonne. Les Canadiens prennent toute la place, mais on en parle de plus en plus. Ça, c'est le fun. Cette année, on a deux joueurs qui risquent de sortir peut-être trois dans la première ronde. Fait que ça va être très positif dans la Ligue nationale aussi. Bref, tous ces éléments-là font que la Ligue aujourd'hui, je pense, a retrouvé certaines lettres de noblesse, si on veut. On a beaucoup de focus. On vient de faire une campagne de publicité où c'est les parents, c'est les deux mères de joueurs, vous avez peut-être vu, qui viennent parler du parcours de leurs jeunes, puis qui sont fiers du parcours scolaire aussi. On va augmenter les heures que le conseiller scolaire va passer en classe. Donc, l'année prochaine, c'est obligé d'être, le conseiller doit être là 25 heures par semaine pour aider les jeunes. Alors, c'est tous des éléments qui nous rendent fiers, puis nos indicateurs de performance sont positif, autant au niveau de, comme je l'ai mentionné, pour les foules que les indicateurs plus business. Alors, on est assez content de ça.
Oui, tout à fait. Puis vous avez raison, là, un, que c'est pas du tout médiatisé. Moi, j'en parle des fois. C'est rare qu'on en parle et bon, qu'on en parle assez en profondeur. Puis surtout, le prix des billets pour avoir du spectacle et être près de l'action, c'est vraiment compétitif, là.
Absolument,
Oui.
absolument.
Parfait, Monsieur Cecchini. Ben écoutez, on vous laissera pas plus longtemps. Merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite le meilleur. Puis est-ce que vous voulez avoir un petit mot de la fin par rapport à votre ligue?
Ben, merci, Bruno. Ben, merci. Je veux vous remercier, honnêtement, du temps que vous nous donnez. Je suis conscient qu'on s'adresse à des étudiants. C'est souvent une cible que tout le monde vise, les jeunes. Tout le monde veut parler aux jeunes. Fait que vous me donnez l'occasion de m'adresser directement, parler de notre ligue. On est fiers de notre ligue. J'espère que les jeunes de toutes les régions parlé de Sherbrooke tantôt. Donc, on a le Phoenix là-bas qui fait un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, j'étais là hier soir, puis qui faisait une soirée au niveau du financement pour l'école, tu sais, pour les coûts scolaires et tout ça. Fait que on est très fiers, puis on espère que les jeunes vont embarquer avec nous en supportant leur équipe locale.
Parfait. Ben écoutez, merci beaucoup, Monsieur Cecchini, puis on vous souhaite une excellente journée, puis une bonne fin de saison et beaucoup de Québécois repêchés par la Ligue nationale l'année qui s'en vient.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'en arrache les skieurs par MC Phyllis et Max Robin. Quand on pense qu'il y en a qui ont la blonde à aller dans le nord, on plein hiver pour se faire geler comme des grêlons. J'suis ben mieux chez nous à couvert. Y'en a ben assez que j'en arrache à rester debout sous mes deux pieds pour marcher sur le plancher des vaches. J'irai pas en ski mettre au pied. Ils marchent embarqués sur deux plaintes avec l'air de s'évertuer à se faire glisser à tout éteindre comme s'ils avaient envie de suer. Les skieux se promènent en culotte. Y'en a qui ont l'air des échalotes pis d'autres qui sont tellement boulottes qu'on a pas qu'elles volent en éclat. Oui, y'en a ben qui ont une charpente à se demander si c'est certain qu'elles feront pas écrouler le Mont-Bande en embarquant un bon matin. En embarquant quelques bons matins. Si t'aimes pas la poésie, va t'en faire du ski. Si tu te balades en outil, va t'en faire du ski. Si t'as des tatous de ski, va t'en faire du ski. Si tu crouses les sportifs, va t'en faire du ski. Si t'aimes pas la poésie, va t'en faire du ski. Si tu te balades en outil, va t'en faire du ski. Si t'as des tatous de ski, va t'en faire du ski. Si tu crouses les sportifs, va t'en faire du ski. Y'a ben des skieurs qui vont en fait se promener dehors malgré le nord-air. Pis donc ils font du ski de chasse, fait ben confortable dans le chalet. Des jeunes vont se promener loin de la ville en disant que c'est pour faire du ski. Mais y'en a qui sont moins habiles sur ski que ces verres de whisky. Les vrais skieurs c'est petit nombre, les autres restent à l'hôtel au chaud. C'est-il ça comme dirait Pardon, une histoire des pays d'en haut. Une histoire des pays d'en haut. C'est-il ça comme dirait Pardon, une histoire des pays d'en haut.
À l'émission Le Terrain Sportif. On tient à remercier beaucoup M. Cicchini là, pour son temps. Ça fut une entrevue très intéressante et très agréable à réaliser avec lui là, il y a environ une semaine et demie. Et sinon, bien, on a entendu trois chansons. Les skieurs, comme vous l'imaginez, au Canada et la mer Rose. Donc voilà, maintenant on va parler un peu de ce qui se passe dans le monde du sport universitaire puisque c'est pas mal la conclusion de la plus grande, de la majeure partie des sports, notamment les sports intérieurs, donc le hockey, basketball et volleyball. On va parler de ça, vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà donc l'émission qui tire à sa fin, mais par contre, on a des petits résultats. Hein. Hier, le 23 mars 2025, évidemment la même année, on a eu plusieurs matchs à médailles dans le monde du sport universitaire canadien, championnats nationaux. Donc tout d'abord, la médaille de bronze au hockey masculin, bien, c'est Saskatchewan, les Huskies, qui l'ont emporté en gagnant 4-1 contre Toronto Metropolitan, ça se passait du côté d'Ottawa. Et la médaille d'or, eh bien, ça a été l'équipe d'Ottawa qui jouait chez elle, les GGs d'Ottawa, qui ont battu une des trois équipes québécoises là, au hockey masculin, les Stingers de Concordia, par la marque de 3-2. Donc, ils sont champions. Et puis d'ailleurs, les deux dernières années, c'était les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Et là, eh bien, le championnat de hockey universitaire masculin retourne du côté de l'Ontario. Volleyball masculin, eh bien, Sherbrooke perd la médaille de bronze 2-1 contre Saskatchewan. Et également, il y avait la finale qui se passait du côté de Alberta contre Brandon au Manitoba. Et l'équipe locale l'a emporté 2-7-1 contre les Pandas de l'Alberta. Donc, félicitations pour l'équipe du Manitoba. Et pour le match de championnat de hockey féminin national, eh bien, c'est la toute petite université du Québec, Bishop's University à Lennoxville, en Estrie, pas très loin de Sherbrooke. Là, c'est à peu près, c'est somme toute pas mal là, à 5-10 minutes de route de Sherbrooke. Eh bien, elles l'ont emporté 3-0. Donc, félicitations pour Bishop's qui ramène un titre national du côté de la province québécoise. Et dans le match pour la troisième place, eh bien, Concordia a perdu 3-1 contre Toronto. Et puis ces matchs-là, ça se passait du côté d'Elmira en Ontario. Donc voici, c'est ce qui se passe du côté dans le monde du sport universitaire. Nous, on met fin à l'émission, mais la semaine prochaine, on devrait avoir un autre invité là. pour parler des qualifications de la Coupe du Monde qui continue d'ailleurs aujourd'hui et demain. Mais pour ceux qui ne le savent pas, eh bien le 25 mars, ça c'est demain, mesdames et messieurs, on a le choc des chocs des chocs. 20h, mardi, donc demain, l'Argentine qui reçoit le Brésil. Et donc, ce sont deux équipes qui vont se qualifier là, pour la Coupe du Monde, très probablement. Mais c'est quand même un match à très haute intensité, beaucoup de passion. On va voir qui va gagner. L'Argentine est en feu, mais Messi n'était pas là dans le premier match là, contre l'Uruguay qu'ils ont emporté 1-0. Le Brésil, quant à eux, ont battu la Colombie. Hein, la Colombie qui a fait d'ailleurs beaucoup de fautes dans ce match-là. Et un peu de perte de temps, mais le Brésil avec Vinicius en fin de match, ils ont été capables de gagner ce match-là. Également, les autres matchs mardi, ben Bolivie-Uruguay, ça c'est à 16h. Match très important pour la Bolivie qui, à l'heure actuelle, tient la dernière place qualificative potentiellement pour la Coupe du Monde. Ils sont 7e sur 10. Le Chili qui reçoit l'Équateur, ça c'est un must-win pour le Chili absolument. Parce que le Chili, à l'heure actuelle, ils sont derniers, 10e sur 10, avec 13 matchs joués. 2 victoires, 3 nuls, 8 défaites, c'est une catastrophe. 9 buts marqués, 21 buts encaissés, 9 points. S'il gagne ce match-là et la Bolivie ne gagne pas, ben il serait avec à 1 point de la Bolivie en 7e place. La Colombie reçoit le Paraguay et puis le Venezuela qui reçoit le Pérou. Là, ça, c'est un match capital en fait. Venezuela, Pérou et le Chili, ils doivent absolument gagner pour espérer se qualifier en Coupe du Monde, puisqu'après ça, là, il va rester 4 prochains matchs après cette dernière journée. Ça sera la 14e journée là, demain. Après ça, seulement 4 petits matchs restants pour se qualifier pour la Coupe du Monde qui va se passer du côté canadien, du côté des États-Unis et du côté du Mexique au Canada. Évidemment, c'est la ville de Toronto et de Vancouver qui vont recevoir les matchs. Pour ceux que ça intéresse, en Afrique, là, il y a quelques matchs. Le Maroc qui reçoit la Tanzanie, ça c'est qualification pour la Coupe du Monde. Algérie reçoit le Mozambique. En Asie, il y a beaucoup de matchs importants. Le Japon reçoit l'Arabie Saoudite. La Chine reçoit l'Australie. Des matchs importants. Puis c'est pas mal ça. L'Ouganda reçoit la Guinée pour ceux que ça intéresse. Cameroun reçoit la Libye. Nigeria qui reçoit le Zimbabwe. Et ça, c'est important pour les Nigériens qui doivent gagner. Sénégal reçoit le Togo. L'Égypte reçoit la Sierra Leone. Et puis il y a des matchs de qualification en Europe, là, mais c'est pas les plus grandes équipes qui participent. Là. Moldavie contre Estonie. Israël, Norvège, Liechtenstein, Kazakhstan. Macédoine du Nord contre Pays de Galles. Gibraltar, République tchèque. Et c'est pas mal ça pour les matchs des qualifications pour la Coupe du Monde. Mais la semaine prochaine, là, dossier complet sur ce qui se passe dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc c'était l'édition du terrain sportif du 24 mars 2025. Mon nom est Wissam Bensta. Je vous souhaite une excellente semaine et merci beaucoup d'avoir été présent sur les ondes de CSM et de CFAQ et présent et présente également. Bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Salut et au revoir.